sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, mieux connue sous le nom de la SPIB. Et cette semaine encore, j'ai le plaisir de retrouver son président, directeur général Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, on a encore un bon invité avec nous cette semaine, mais avant de le présenter, j'invite toujours les gens à nous contacter pour des questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, cliquez sur « Poser vos questions ». On peut transmettre ces questions par texto, téléphone 819-519-0050, 819-519-0050. Et quand on n'a pas l'occasion de répondre à l'émission même, on le fait dans des émissions ultérieures. Alors, très heureux de retrouver cette semaine parce qu'il était notre invité la semaine dernière. C'est Yvan Klich, donc fellow chercheur en énergie du Centre d'études et de recherche internationale. Université de Montréal, mieux connu sous le nom de Cerium, fellow Institut canadien des affaires mondiales Calgary, auteur aussi d'un livre sur la géopolitique de l'énergie. Donc, merci Yvan, bonjour d'abord et merci d'être avec nous.
Merci, ça me fait grandement plaisir d'être avec vous.
Pour une deuxième semaine.
Pour une deuxième semaine, quel privilège.
Écoute, son agenda est très très chargé puis on a la chance de l'avoir à deux reprises. Donc merci encore Yvan d'être là.
Merci.
Puis la semaine passée, on a eu l'occasion avec Yvan, puis on vous invite à réécouter même l'émission, ceux qui l'auront manqué, mais on a parlé des impacts de l'administration Trump et beaucoup de volets, donc le volet de la défense, etc., puis que ça représente pour Bécancour potentiellement. Mais cette semaine, on voulait se concentrer, Donald, avec notre invité, sur la transition énergétique. Puis bon, je pense que Donald, à micro fermé, on parlait tantôt, puis tu disais à quel point au Québec on est privilégié, chanceux. Je te lancerai là-dessus. Là.
Ben, tu sais, quand on regarde une transition, c'est on est dedans, puis elle est devant nous, mais je pense que c'est important de prendre un petit peu de temps, de regarder un petit peu derrière nous. Et puis, tu sais, le Québec s'est développé, je pense qu'il y a eu de l'audace à l'époque, mais tu sais, toutes les centrales hydroélectriques qui composent notre réseau, notre capacité de production, c'est vraiment, vraiment quand même assez unique dans le monde. Et puis, bon, évidemment, les gens savent que je me suis occupé de la rivière Saint-Maurice, toutes les centrales. Et puis, tu sais, il faut voir que c'est très vert comme approche, mais aussi, c'est qu'à Shawinigan, il y a un des groupes qui tourne depuis 1910. Là. Puis c'est encore le même groupe turbo-alternateur qu'il est là. Oui, il y a eu des réfections, mais ça peut ou pas changer. Fait que donc, cette énergie-là, cette source d'énergie-là, c'est vraiment une chance qu'on l'aille. Et puis, tu sais, Yvan, tu étais chez Hydro-Québec aussi. Fait que, donc, quand on est dans la boîte, je pense qu'on capte plus ce privilège-là qu'on a d'avoir accès à tout ça. Là.
Ben moi, une des choses qui m'a le plus séduite dans toute ma carrière à Hydro-Québec, parmi les plus beaux moments que je vivais, c'est quand on amenait des visiteurs étrangers, des ministres de l'énergie d'autres pays et qui venaient visiter les installations hydroélectriques chez nous, que ce soit justement à Mauricie, que ce soit à Manicouagan ou encore à la baie James, et de voir justement leur surprise, leur émerveillement, leur admiration face au réseau énergétique électrique qu'on s'était doté, ben ils étaient tous franchement époustouflés. Et là, je parle vraiment de ministres de pays comme la Chine, l'Inde, la Grande-Bretagne, etc. Ils étaient vraiment émerveillés par la qualité de réseau électrique qu'on s'était donné. Un réseau électrique, on le sait, qui utilise une énergie propre, très peu émettrice de gaz à effet de serre, renouvelable et à prix très accessible pour l'ensemble de la population. Il faut quand même rappeler que les tarifs du Québec d'aujourd'hui sont en proportion les mêmes que ceux qui étaient pratiqués il y a plusieurs décennies. Il y a une corrélation parfaite entre l'inflation et la hausse des prix pour la clientèle domestique. Puis je terminerai là-dessus. Quand on regarde d'autres territoires dans le monde, il y en a maximum une dizaine. Puis là, j'inclus des provinces canadiennes qui ont un réseau entièrement décarboné. La première volonté de tout État quand il entreprend un exercice de décarbonation, c'est de décarboner son réseau de production d'électricité. Et nous, c'est déjà fait. On est à peine une dizaine dans le monde. Et encore une fois, j'inclus des provinces canadiennes comme la Colombie-Britannique, la Manitoba. Donc oui, j'appuie. Nous sommes effectivement très chanceux. Ce qui a été accompli par les générations antérieures, on en tire encore pleinement les bénéfices aujourd'hui.
Puis aussi, bon, on sait que le gouvernement du Québec, maintenant c'est la première ministre Christine Fréchette qui en a parlé récemment encore du plan de développement énergétique d'Hydro-Québec. Il y a quand même beaucoup de projets sur la table pour accroître bon, la capacité aussi. C'est quoi les enjeux derrière ce plan de développement énergétique selon toi chez Hydro-Québec, Yvan?
Ben, moi, je pense que c'est un plan qui est extrêmement ambitieux. Il faut prendre peut-être remettre un peu de contexte. Là, l'Hydro-Québec s'est doté d'un plan stratégique un peu en rupture là, il y a quelques années sous Mme Brochu, où on avait pris la mesure du chantier de la décarbonation et surtout, on s'est dit, on l'a fait, la décarbonation. Mm-hmm. Décarbonation dont on parlait depuis plusieurs années. On s'est dit, on le fait. M. Sabier est arrivé avec un plan d'action. Il est extrêmement ambitieux. Mon Dieu, je vais donner simplement un seul chiffre. On a mis 20 ans à développer 4000 MW de production éolienne entre 2023 et maintenant, 4000 MW. Le réseau d'électricité d'Hydro-Québec dans son ensemble, c'est 40 000 MW. Et là, on va développer 10 000 MW d'éolien dans les 10 prochaines années. Mm-hmm. Donc, ça démontre, et cette ambition-là se répercute également en production d'hydroélectricité, dans le domaine également de l'efficacité énergétique, les efforts de réhabilitation, les efforts de renforcement du réseau. Donc, c'est véritablement un chantier titanesque dans lequel nous sommes lancés et qui va assurément créer beaucoup de richesses et pour lequel il va également y avoir de l'innovation, on l'espère, des jeunes pousses qui vont en émerger et qui seront ensuite des phares de l'économie du Québec pour le 21e siècle.
Puis Bécancour, il y a de la place pour recevoir des nouvelles pousses. Hein?
Ouais, il y a de la place pour recevoir des nouvelles pousses, mais tu sais, il faut toujours voir aussi la place qu'on doit jouer. Tu sais, parce qu'on peut pas, on n'installera pas des éoliennes dans le parc de Bécancour. Mais à Bécancour, il y a déjà du transit qui se passe. Donc, s'il y a des gens qui viennent dans le parc, ils vont voir qu'il y a des pales d'éoliennes de storer qui vont quitter bientôt pour aller être assemblées. Mais on peut, tu sais, puis un port qui est en milieu urbain, ça vient avec toutes les contraintes du milieu urbain, hein, réussir à rallier de l'autoroute jusqu'au port. Donc, nous, on a une facilité parce qu'on est... Oh, c'est beaucoup moins dense autour. Fait que donc, clairement, pour l'exemple des éoliennes, ben, y en a qui entrent, il y en a qui sortent. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... Je pense que le Bécancour peut jouer un rôle dans cette transition énergétique-là, mais pas nécessairement en produisant de l'énergie, mais en étant dans cette chaîne-là d'être capable de... C'est parce que si on fait des parcs, j'ai l'impression qu'il y aura de plus en plus d'éoliennes un peu plus éloignées de par l'enjeu d'acceptabilité sociale, mais ces éoliennes-là, il faudra aller les porter, il faudra les assembler et puis y avoir accès. Là.
D'ailleurs, on le voit dans notre région avec d'autres projets d'ordre privé, comment c'est sensible l'acceptabilité sociale dans le domaine éolien, mais aussi quand on parle de bâtir de nouveaux barrages. Toi, Yvan, le côté acceptabilité sociale, est-ce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui, bon, c'est important, oui, mais est-ce que ça peut être un frein à tout développement à un certain moment donné? C'est où l'équilibre là-dedans?
Le premier facteur de non-réalisation des projets d'énergie renouvelable en 2024 aux États-Unis, c'était l'acceptabilité sociale. Mm-hmm. Donc, ce sont des projets éoliens, des projets solaires, des projets de batterie qui n'ont pas pu voir le jour, faute justement de consentement de la population. Et même, ça va un peu plus loin, il y a même un bon nombre de municipalités aux États-Unis, on parle vraiment de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, qui ont émis des règlements contre l'installation de projets de parcs éoliens, solaires, batteries. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut quand même si ces projets-là sont... pour la bonne cause, mm-hmm. c'est pour la transition énergétique, pour décarboner un système de énergétique qui est essentiellement encore carboné, qui émet des gaz à effet de serre. On le répète, c'est 80% quand même de notre système énergétique mondial qui est carboné, donc il faut faire de grands efforts pour le modifier. Bien, même si c'est pour la bonne cause, même si c'est pour avoir une meilleure qualité d'air, pour solutionner le dérèglement climatique, ça ne veut pas dire que les projets vont être nécessairement acceptés par les communautés locales. Donc, moi, je pense que pour les promoteurs, ça demande beaucoup d'efforts pour travailler le plus en amont possible pour bien expliquer les projets faire voir là, que ces projets-là, ben, ce sont des projets d'avenir qui vont enrichir le Québec, qui vont être un legs important pour les générations futures. Donc, il faut travailler le plus possible en amont et s'assurer qu'effectivement, on explique à la fois le contexte général du pourquoi de ces efforts de transition et comment ça peut bénéficier à la population locale.
Oui, Donald.
Juste pour rebondir sur l'acceptabilité sociale, donc c'est sûr que plus on fait des projets proches d'où les gens vivent, hein, plus ils vont être sensibles et vont être préoccupés. Ça va être important de bien expliquer. Mais j'ai bien aimé ce que Mme Fréchette a amené lors de son discours. Elle a parlé des Premières Nations, puis qu'il fallait aller plus loin, parce que la réconciliation avec eux passe aussi par la réconciliation économique. Donc, de faire une place aux Premières Nations, aux Innus, dans ces projets-là, je pense que ça va être inévitable, parce que, bon, si on s'éloigne des grands centres, on tombe sur des territoires revendiqués, et puis c'est inévitable qu'il y aura des ententes à avoir avec eux. Fait que donc, le fait d'envisager une participation dans ces projets-là, une participation pas juste en termes de partenaires pour échanger de l'information, mais en partenaire financier, en partenaire économique, je pense que c'est aussi très prometteur. Ça va être la seule façon probablement de faire ces développements-là.
Mais quand on voit des voisins du Sud, Yvan, notre voisin du Sud qui est pro-pétrole, et comment... On sent qu'on a des vents de face pour essayer de vendre, on peut dire, la transition énergétique en 2026. Si on recule de 2-3 ans, là, on était là-dedans. Mais on a quand même un gros marché américain avec un gouvernement américain pro-pétrole qui dit, dans quelle mesure on peut combattre ce vent de face-là au niveau de la transition énergétique?
Je pense que une des choses, encore une fois, c'est quand même extrêmement dommage, là, l'attitude de Washington. Les États-Unis sont le plus grand émetteur historique et le deuxième plus grand émetteur annuel après la Chine. Alors, c'est quand même une abdication de responsabilité qui est quand même très, très troublante. Ceci dit, il faut pas aussi être trop, je pense, affecté par le bruit qui se déroule à Washington. Il y a quand même 50 États américains aux États-Unis qui ont aussi pas mal d'influence et de pouvoir sur leur secteur de l'énergie et qui, eux, ont quand même décidé d'aller de l'avant là, dans la transition énergétique. Donc, une fois que M. Trump quittera le pouvoir, il y aura quand même, ça ne sera pas un désert. Il y aura quand même eu beaucoup de choses qui auront été faites aux États-Unis pour faire progresser la transition. C'est sûr que c'est un vent de face, mais justement, c'est peut-être aussi une opportunité pour nous, autant au Québec qu'au Canada, de prendre la pole position qui nous est maintenant laissée par les États-Unis. Et c'est clair que actuellement, les événements qu'on connaît dans le détroit d'Ormuz et qui rappellent au pays à quel point c'est désavantageux d'être dépendant du pétrole et du gaz, ça va aussi tous les inciter à accélérer les efforts de transition. Donc, moi, je pense que la mouvance mondiale, c'est davantage aller vers la transition avec un pays puissant, mais récalcitrant, les États-Unis, mais qui n'empêchera pas le mouvement d'ensemble de se réaliser.
Puis à Bécancour, les vents de face ont été plus du côté du ralentissement de certains dossiers dans la filière batterie.
Ralentissement, mais tu sais, d'un côté, c'est particulier parce que Trump veut ramener des investissements aux États-Unis, mais de par son attitude, il y a des entreprises qui aimeraient mieux venir ici qu'aux États-Unis de par l'approche, l'attitude et le dérapage qu'on voit. Donc, on dirait que lui, il y a juste lui qui comprend son gros bon sens, mais vraiment, on voit la tendance aussi que autant les entreprises, certaines entreprises, nous, qui nous ont contactés, puis évidemment qu'on discute avec plein d'entreprises, hein, c'est pas parce qu'on discute avec 10-15 entreprises qui vont absolument faire un projet ici, mais on le voit ça. Donc, les gens, la crédibilité, Yvan en parlait que l'émission précédente, que la crédibilité des États-Unis était affectée. Mais on le voit aussi dans des gestes comme ça. Ça fait donc il se pourrait qu'il y ait l'effet inverse par certains investisseurs.
Bien, déjà rendu à la pause pour une autre émission avec notre invité Yvan Klisch du Cerium et Donald Olivier de la SPIB. Alors, après le retour de la pause, on va discuter de transition énergétique toujours, mais bon, est-ce que ça passe aussi par le nucléaire? Aussi, on va parler également peut-être mieux consommer en période de pointe, peut-être une autre façon aussi de faire de la transition énergétique, puis peut-être d'autres projets par rapport à Bécancour. Donc, restez des nôtres et après la pause, on revient avec Yvan Klisch du Cerium et Donald Olivier de la SPIB.
On est avec Jeannie Montreuil de Sojetel Affaires. Bonjour!
Bonjour, Rosie!
Aujourd'hui, on parle d'usine 4.0, donc plusieurs équipements qui doivent rester connectés en permanence. Et tout ça dépend d'une chose, un Wi-Fi qui est fiable. Mais gérer ces réseaux-là, ça doit pas toujours être évident.
C'est vrai. On peut penser au système de gestion, aux tablettes sur le plancher de production, aux caméras, aux machines automatisées ou simplement pour permettre aux employés, aux visiteurs ou aux partenaires de se brancher à un réseau Wi-Fi. Donc, le réseau doit être stable, rapide, sécurisé et bien optimisé.
Et c'est là que le Wi-Fi géré entre en jeu.
Exactement. Avec le Wi-Fi géré de Sogetel, l'entreprise confie la gestion de son réseau à nos experts. On s'occupe de la gestion, de la mise à jour et de l'optimisation en continu. Le résultat? Un réseau performant, sécurisé et sans casse-tête pour l'entreprise.
Donc, les entreprises peuvent se concentrer sur leurs opérations.
Voilà! Et même dans les environnements industriels qui sont complexes, on s'assure que le Wi-Fi fonctionne partout dans l'usine.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur sogetel.com.
Merci, Janie.
Merci, Rosie.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Donc, de retour avec notre invité Yvan Clich du Cerium et évidemment Donald Olivier de la SPIB pour poursuivre cette belle discussion sur la transition énergétique. Et d'ailleurs, avant la pause, on a eu l'occasion de parler d'acceptabilité sociale, de toutes sortes de défis. On a parlé d'Hydro-Québec également. On a parlé du plan d'Hydro-Québec, mais aussi ce qu'on a découvert en placotant à micro fermé, c'est qu'il y a un plan quand même important qui est sur le point, un plan intégré en énergie qui est sur le point d'être lancé. Peut-être, Yvan, parle-nous-en, s'il te plaît, de ce plan-là.
Bien, c'est un plan qui découle justement de tous les événements géopolitiques majeurs qu'on a connus ces dernières années avec l'invasion russe de l'Ukraine, avec la pandémie. On a connu également ce que fait M. Trump là, avec le Venezuela, l'Iran, etc. Beaucoup de nations, d'États se sont dit que leur secteur énergétique s'était devenu maintenant centrale à leur sécurité nationale. Donc, il fallait organiser son développement de manière plus efficace au cours des prochaines années en misant sur les infrastructures existantes et les filières énergétiques qui sont déjà présentes sur le territoire. Alors, on est un peu en retard là-dessus, le Québec, mais le Québec a effectivement lancé tout un processus de consultation, d'élaboration de ce qu'on appelle le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, le PGIR, et le gouvernement a demandé à la Régie de l'énergie de se prononcer sur le volet sécurité énergétique et résilience de ce plan. La Régie a soumis son rapport de bonne qualité donc le gouvernement devrait publier dans les prochains jours, prochaines semaines, ce plan qui sera une première dans l'histoire du Québec où on va se donner une feuille de route sur le développement de nos filières énergétiques. Mais là, je dirais de façon intégrée justement, où la filière gaz parle à la filière électrique, qui parle à d'autres filières pour s'assurer que les besoins énergétiques du Québec soient comblés de façon sûre et sécuritaire.
Parce que même, oui, Donald?
Je voulais juste rebondir sur ça parce que, tu sais, une des grosses difficultés, c'est la puissance. Donc, la puissance et l'énergie, la différence entre les deux. Je dis toujours, le 22 janvier à 6h22 du matin, qui fait très, très froid, qui fait moins 32, il n'y a pas grand monde qui sont prêts à baisser leur thermostat. Donc, c'est là un peu, c'est l'enjeu de pointe. C'est vraiment l'aspect puissance qui est problématique. Et puis ça, c'est vraiment pas facile à gérer. T'sais. Puis pour que les gens comprennent la différence entre puissance et énergie, j'y vais avec un exemple très, très simple là, qui n'est pas du domaine de l'énergie, mais je pense que les gens vont comprendre. C'est si un restaurant a une capacité de faire 1000 repas par jour, il y a une capacité. Il peut faire 1000 repas par jour, mais si tout le monde veut dîner entre midi et 13 heures, ça ne fonctionne pas. Donc, la différence entre énergie et puissance, c'est la même chose. Fait que si Hydro-Québec a une puissance installée de 40 000 MW, le jour où il y a un froid extrême puis que personne ne veut faire de compromis puis qu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie, il faut en acheter. Et c'est de là que ça devient très, très, très coûteux. Fait que, parce que de construire des centrales, des installations juste pour gérer la pointe, c'est quand même pas ce qui est souhaité.
Est-ce qu'on sait pas? Oui, vas-y, Yvan.
Effectivement, et c'est là que Bécancour, la région joue un rôle critique, puisque justement, pour ces centrales qu'on appelle des centrales de pointe, elle en a deux, là, donc la centrale de Bécancour, la centrale TAG.
TAG.
Et c'est justement, ces équipements-là sont hautement stratégiques et vont le devenir encore plus au cours des prochaines années, parce qu'effectivement, c'est maintenant assez connu, à partir de la fin de la décennie, Hydro-Québec va être pas mal serré justement pour les périodes critiques de pointe là, qui sont toujours en hiver, matin et soir, lorsqu'il fait très froid. Alors, ces deux équipements-là, leur importance a beaucoup grandi là, dans la gestion stratégique du portfolio énergétique d'Hydro-Québec, et ça va rester quand même un défi important au cours des prochaines années. C'est d'à la fois gérer cette pointe, mais également mieux consommer l'électricité, développer des nouvelles manières de faire, des nouvelles attitudes, des nouveaux comportements qui vont pouvoir lisser cette pointe, parce que comme Donald le mentionnait, ben, on veut pas construire des équipements coûteux simplement pour quelques heures dans l'année. Alors, il va falloir donc à la fois, oui, avoir des équipements disponibles, mais également induire des comportements plus, je dirais, de meilleure consommation d'énergie durant ces périodes critiques et pourquoi pas également durant le reste de l'année.
Puis, Yvan parlait de deux centrales, le TAG et l'autre.
Il y a TAG qui est déjà sur le réseau depuis longtemps. TAG était l'alimentation d'urgence de la centrale nucléaire à l'époque. Donc là, elle est vraiment là pour les problèmes, les situations de pointe. Mais il y a aussi TCE, que Hydro-Québec est en négociation avec eux. Fait que donc, c'est le deuxième potentiel. Et puis, fait que donc, il y a ces deux-là qui sont là pour prendre le relais éventuellement en cas de situation de forte demande. Mais il faut voir que, tu sais, il faut motiver les gens à adapter les comportements. Mais il y a déjà des programmes pour motiver les entreprises à adopter leurs comportements. Fait qu'il faut voir qu'il y a plusieurs entreprises dans le parc industriel qui ont une entente avec Hydro-Québec. Et puis, quand il y a une pointe qui se dessine, une période de très grand froid, bien, il y a un coup de téléphone qui se place et puis on leur demande de baisser leur production. C'est déjà convenu, il y a déjà une rétribution. Ça fait que donc, c'est mieux de payer l'entreprise pour qu'elle réduise sa production que de construire un nouveau barrage ou une nouvelle installation. Ça fait que c'est déjà de quoi qui est très, très présent, mais au niveau individuel, c'est pas encore dans nos valeurs, c'est pas encore suffisamment ancré pour avoir un impact.
Mais là, je me mets à la place des auditeurs, auditrices qui entendent parler de ces équipements de pointe. Là, mais pourquoi avoir fermé Gentilly 2? Ça aurait été un autre équipement de pointe. Je me mets à la place de ceux et celles qui nous écoutent. Bref, le nucléaire, est-ce que c'est une piste qui est envisageable, sans dire qu'on repart Gentilly 2? Mais Yvan, est-ce que c'est le nucléaire? Bon, on a parlé, on parlera du solaire tantôt, mais quand même la batterie, mais quand même, est-ce que le nucléaire, c'est une option en 2026?
Bien, je pense que pour le Québec, pour le plan d'action d'Hydro-Québec au cours des 10 prochaines années, c'est pas dans les cartons. Mais si vous voulez une centrale nucléaire, il y a quand même une vie après 2035, après le plan d'action d'Hydro-Québec, on va encore être là. Il y aura des Québécois qui vont vivre sur le territoire. Alors, pourquoi je dis ça? Bien, c'est que c'est là que le nucléaire va peut-être prendre un rôle plus important. Puis vous savez quoi? Si on veut effectivement avoir une centrale nucléaire dans à peu près ces eaux autour de 2035, 2040, 2045...
Prendre des décisions maintenant.
C'est maintenant qu'il faut y penser. C'est maintenant que le Québec doit envisager, oui ou non, si cette filière énergétique reste prometteuse pour elle. On a quand même, je dirais, un élément important ici à mentionner, c'est que les Ontariens, pour eux, le nucléaire, c'est comme pour nous l'hydroélectricité. Donc, les Ontariens, eux, misent complètement sur le nucléaire pour assurer leur sécurité d'approvisionnement. Et ils vont être parmi les premiers au monde à mettre en place ce qu'on appelle un petit réacteur modulaire, qui sont des unités de production de moins grande capacité que ceux qu'on a construits antérieurement. Et pourquoi on fait ça? Bien, justement, c'est qu'on veut éviter les problématiques qui se sont malheureusement trop répétées dans l'industrie nucléaire au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire des dépassements de coûts et d'échéanciers. Alors, il y a un nouveau concept qui a été mis de l'avant, c'est ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires. L'Ontario est à construire ses premiers réacteurs et je pense que pour nous, ça peut être un effet rebond intéressant. C'est si cette technologie-là s'avère efficace, qu'on a réussi à maîtriser les échéanciers et les coûts, ça peut être une option fort intéressante pour le Québec dans le long terme.
Je parle à quelqu'un qui connaît bien ça, Donald, qui a été trempé pas mal dans Gentilly 2. Est-ce que demain matin, dans 15-20 ans, ça serait un actif qui serait redémarrable, entre guillemets? Là?
Ben, pour avoir vécu les discussions avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire, j'ai l'impression que Hydro-Québec enverrait 12 pouces d'études puis recevrait un autre 12 pouces de questions. De repartir un réacteur qui a été mis à l'arrêt, je pense que ce serait très dur de sécuriser la commission que c'est correct, et puis ça serait probablement trop risqué d'un point de vue financier. Fait que si jamais le nucléaire revient, moi je pense plus que ce sera des nouvelles installations.
D'accord.
Mais tu sais, il faut voir que, tu sais, c'est que, mettons, je rappelle aux gens qu'en 2012, il y a eu une manifestation dans le parc industriel, c'est que les gens locaux étaient contre la décision du gouvernement de l'époque, le Parti québécois, de fermer la centrale nucléaire. Donc, les gens voulaient qu'elle continue. Les gens, il y a beaucoup de gens qui travaillaient là. Mais l'acceptabilité sociale où les gens perdent le vécu. Ça fait que donc, on reviendrait dans 5 ans, 10 ans, 20 ans avec un dossier nucléaire. Je suis convaincu qu'il ne faudrait pas prendre pour acquis que le milieu est encore favorable parce qu'on perd nos réflexes. Je me permets de faire l'exemple de Northvolt dans la région de Montréal. Où est-ce que c'est un site industriel qui a déjà eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités qui avait un impact quand même dans le milieu. Mais 20, 30 ans qu'il n'y a plus d'activité industrielle, les gens perdent leurs réflexes, ne cohabitent plus avec ça. Fait que donc, il ne faudrait pas prendre pour acquis que parce qu'ici, il y a déjà eu du nucléaire, que les gens sont encore ouverts, bien que je pense que les gens sont sensibles et puis qu'on de, ont quand même un préjugé favorable, ne serait-ce que ceux qui ont déjà travaillé puis qui ont vu à quel point c'était normé et sécuritaire.
Puis le solaire, Yvan, une bonne option?
Bien, assurément, je pense qu'on a besoin d'élargir le coffre à outils. La demande en électricité est telle au Québec et nos efforts, nos objectifs de décarbonation, qui, je le répète, sont les trois quarts de la demande, de la hausse de la demande en électricité prévue au cours des 10 prochaines années au Québec, c'est pour décarboner une économie qui repose encore à 50 % sur du pétrole et du gaz. Alors, ces efforts-là sont tellement importants que, ben, moi, je pense qu'il faut être agnostique face à toutes les formes d'énergie, avoir une ouverture à leur contribution. Et donc, le solaire, c'en est assurément une. Écoutez, si tout le monde s'installe un panneau solaire et aussi une batterie, ben, c'est quand même de l'électricité qu'Hydro-Québec n'a plus à produire. Et dans un contexte où on n'arrive pas à pouvoir donner suite à toutes les demandes de raccordement, ce qui est une première dans l'histoire d'Hydro-Québec, c'est la première fois qu'on a de la difficulté à accepter tout le monde. Bien, si on allège un peu la pression sur la hausse de la demande et qu'on peut nous-mêmes produire une partie de l'électricité pour rencontrer nos besoins, pourquoi pas? Ça ne sera jamais aussi, je dirais, stratégique en termes de quantité d'énergie qu'une grosse centrale hydroélectrique. Mais des panneaux solaires multipliés un petit peu partout sur le territoire, en addition... Tout ça additionné, ça va alléger l'angle de la pression sur la demande. Et je termine là-dessus. Je rappelle que Hydro-Québec a lancé un premier appel de proposition pour 300 MW d'énergie solaire. Elle a réceptionné les propositions et donc va attribuer les contrats là, au cours dans le courant de 2026 et 2027.
Oui, puis pour faire du mélange là-dessus, je pense qu'ils ont reçu des offres pour 460 MW, je crois. Donc, évidemment, ils vont en octroyer pour 300. Et là-dessus, ça a été mentionné dans certains médias, mais il y a trois projets sur le territoire de Bécancour. Mm-hmm. Donc, parce qu'une des choses intéressantes, c'est que des fois, il y a des terrains qui n'ont pas d'autres usages possibles. Fait que donc, c'est intéressant parce qu'on peut quand même valoriser certains terrains qui n'auraient peut-être pas beaucoup d'autres possibilités avec autre que le solaire.
Donc, ce serait dans le parc?
Oui, ben, en périphérie ou dans le parc. Donc, la MRC s'est positionnée sur ça. Ça fait que donc, ça serait possible qu'on voit des panneaux arriver. Les décisions d'Hydro-Québec vont être prises au premier trimestre 2027.
Donc, beaucoup de pain sur la planche au niveau énergétique, Yvan, avec le PGIR, puis aussi, bon, le plan stratégique, évidemment, d'Hydro-Québec lui-même.
Je sais pas, Yvan, tu as parlé du PGIR tantôt. C'était pas clair, peut-être par humilité, là, mais tu es un des experts qui a été consulté dans le cadre de ce plan-là. Mm-hmm. Donc, j'imagine que c'est intéressant de contribuer à cette réflexion-là.
Oui, c'est intéressant. Puis moi, ce que j'ai trouvé justement particulièrement stimulant, c'est que on se pose pas beaucoup au Québec la question de la sécurité énergétique. Hein. On la prend pas mal pour acquise. C'est pas le même bonne chose parce que ça veut dire que les différents opérateurs, Hydro-Québec, Énergie et les raffineries, faut pas l'oublier, ben, ils font un bon travail. Mais je pense que dans le monde dans lequel nous sommes, là, il faut être un petit peu plus, jouer nos cartes un petit peu plus près de notre poitrine, puis s'assurer qu'effectivement, dans un contexte de croissance de la demande en énergie et de l'importance qu'aura l'énergie pour maintenir la compétitivité industrielle du Québec et notre qualité de vie, je pense que c'est pas mauvais là, qu'on réfléchisse davantage sur quelles seront les contributions des différentes filières, qu'on reste agnostique et pas trop idéologique face aux différentes filières. Chacune peut apporter une contribution différente. Une forme d'énergie peut être inintéressante à un endroit, plus intéressante à l'autre. Et je pense que cette ouverture d'esprit-là, si on la maintient au Québec, ben ça va être que favorable pour nous. Il faut maintenant beaucoup parler d'énergie avec pragmatisme et discernement.
Fait que, en étant pragmatique, est-ce que c'est une bonne idée de partir notre lave-vaisselle à minuit plutôt qu'à 6 heures le soir?
Ben, si les technologies le permettent, pourquoi pas?
Alors, c'est sur cette note très pratico-pratique, comme on dit, qu'on arrive à la fin de l'émission. Donald, en quelques secondes, peut-être souhaiter tes mots de remerciement.
Ben, écoute, merci Yvan, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Je pense que les auditeurs vont apprécier parce qu'on a eu, souvent on est pris avec des 4-5 minutes d'intervention et puis là, avoir eu la chance de t'avoir deux fois 30 minutes, c'est vraiment un privilège. Donc, merci encore.
Merci, grand plaisir.
Alors, c'est ce qui m'a fait à cette deuxième émission avec Yvan Klisch. Donc, vraiment, merci beaucoup, Yvan, du Cerium, Yvan Klisch, d'être prêté à ces deux émissions, Le Parc en 30 minutes. Merci encore, Donald, pour ces informations toujours aussi claires et pertinentes. Donc, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, on aura une émission spéciale pour... on avance tranquillement vers la fin de la saison. On aura une émission spéciale à vous présenter Ça va avoir du sport un peu dans le décor, je pense. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et c'est Marc Rochette qui vous souhaite de passer une belle semaine, mais surtout d'être avec nous au Parc en 30 minutes pour la prochaine édition.